Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, avec le début du printemps, nous nous promenons dans les allées de l'Arboretum de Versailles qui rouvre pour la saison. Ensuite, nous rencontrons une vraie pin-up française qui part pour un concours à Las Vegas. Et puis nous passons à Troyes où deux poulains jumeaux viennent tout juste de naître et c'est extrêmement rare. Mais commençons par l'actu de ce mercredi 27 mars. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tornier, bonjour à tous.
On va aussi passer par Alger, Londres et Paris ce midi.
Avec la nouvelle donne en Algérie, maintenant que l'armée a lâché Bouteflika, avec la situation toujours confuse et incertaine au Royaume-Uni, on va entendre des Français installés à Londres, et avec des manifestations en France avec le projet de réforme de la fonction publique.
On va parler d'environnement, mais pas uniquement, avec les écologistes engagés pour les européennes.
On va suivre une équipe du service des routes du Gard. C'est assez impressionnant ce qu'ils trouvent comme déchets sur le bord de la chaussée, souvent jetés par la fenêtre de la voiture.
Pourquoi est-ce qu'on reparle de la Lune ?
Parce que Donald Trump s'énerve contre la NASA. Il veut des Américains sur la Lune avant 2028.
On fêtera aussi à notre façon les 130 ans de la Tour Eiffel. C'est dimanche son anniversaire. Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tornier, Denis Farouf sur France Bleu.
On sait le sujet épineux. Le projet de réforme de la fonction publique a été présenté en Conseil des ministres ce matin et le calendrier est sur la table.
Il devrait être adopté avant l'été et applicable au 1er janvier prochain. L'objectif est de réduire de 120 000 le nombre de postes de fonctionnaires d'ici 2022, de plus recourir aux contractuels, la possibilité de rupture conventionnelle, ainsi que des mesures pour favoriser la mobilité des agents.
Il est rejeté par 9 syndicats. Des rassemblements sont prévus aujourd'hui.
À Paris et partout en France devant les préfectures.
Un nouveau répit pour la Syrie Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord.
Le tribunal de Strasbourg a accordé un nouveau délai jusqu'au 24 avril pour la recherche d'un repreneur.
Que va-t-il se passer en Algérie depuis que l'armée a lâché le président Bouteflika ?
Elle a en tout cas ouvert la voie à un départ du président en enclenchant la procédure d'empêchement liée à sa maladie et pourrait accompagner le mouvement démocratique. C'est en tout cas l'avis de Pierre Vermeuren, spécialiste du Maghreb, historien et professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne à Paris.
L'armée n'a pas aujourd'hui ni l'envie ni la capacité de gérer ce pays qui a beaucoup de problèmes, notamment économiques et sociaux. Et je crois qu'elle se contente, si je puis dire, d'assurer la stabilité. Elle a déjà eu l'expérience de la gestion de ce pays pendant une période atroce de la guerre civile. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même des aspirations démocratiques très puissantes dans l'opinion algérienne. C'est pas seulement une aspiration à un changement de génération, à un changement de renouvellement, c'est vraiment pour la première fois ce pays a besoin d'une respiration démocratique. Je crois que ça, l'armée aussi l'entend. Vous savez, de toute manière, elle reste très puissante par ses corps de fonctionnaires. Elle reste au cœur de l'État. Elle ne risque pas d'être affaiblie, quel que soit le prochain élu. Donc je crois que la partie est jouable. Et puis surtout, le risque de l'islamisme a déjà été joué. Donc je pense qu'ils sont plus sereins pour affronter l'avenir qu'il y a quelques années, quand les différentes formations islamistes restaient une utopie politique.
Et puis après l'armée, c'est le RND ce matin, le Rassemblement National Démocratique, le principal allié du parti de Bouteflika qui demande sa démission.
À Londres, c'est aujourd'hui que les députés votent des alternatives à l'accord de sortie de Theresa May.
Alors on va attendre de voir ce qui se passe réellement, tellement le Royaume-Uni nous a habitués à des revirements ces dernières semaines. Et la population britannique est dans le même cas. Et les expatriés français installés outre-Manche aussi, la situation est pour le moins stressante, Louise Baudet.
Français et britanniques, ces élèves du collège français bilingue de Londres, quel que soit leur passeport, leur port d'attache est ici.
Moi, je voudrais pas partir quand même. Enfin, j'ai grandi ici, tous mes amis d'enfance sont là, tout ce que je connais, c'est à Londres.
Amaya, 14 ans.
Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui partent à cause de ça, donc ça brise beaucoup de liens.
Dans cette école comme ailleurs, le Brexit chamboule les effectifs, moins de nouveaux élèves et des professeurs dans l'expectative. Cécile Denet, londonienne depuis 4 ans.
C'est tellement flou, chaotique, avec des décisions prises et le lendemain on vote à l'inverse. Enfin, ça semble un jeu de politique qui nous dépasse.
Un jeu qui consterne ce père d'élèves.
Ils ne prennent pas la mesure de l'impact que ça pourrait avoir sur les gens, sur leur métier. C'est plus le manque de professionnalisme qui est désolant.
Le statut de résident permanent prévu par le gouvernement, pas assez protecteur. Dénonce Nicolas Hatton du collectif des 3 millions qui défend les intérêts des Européens installés ici.
Ils payent leurs impôts, ils votent aux élections locales, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin de faire cette demande. On ne s'est jamais senti comme des immigrés au Royaume-Uni.
Rencontrer les mêmes difficultés qu'un non-européen pour décrocher un travail ou signer un bail, perspective d'autant plus inquiétante qu'il ne fait pas bon être migrant en ce moment, ni au Royaume-Uni, ni sur le continent.
Louise Baudet à Londres, en attendant le Brexit, en attendant la forme forme que va prendre le Brexit.
On va visiblement parler d'environnement dans cette campagne pour les européennes, si l'on en juge par les écologistes qui sont présents dans beaucoup de listes. On va y revenir dans un instant, le temps de regarder sur le bord de la route.
Ça commence là, l'écologie, dans nos gestes quotidiens, et il y a encore du travail. Les 300 agents du département du Gard n'en reviennent pas de ce qu'ils trouvent le long des chaussées en cette semaine de nettoyage. Écoutez Dorian Dezière, chef du centre d'Anduze du service des routes.
On a une équipe qui est sur la route 910 entre Anduze et Saint-Christol-les-Alères. Voilà, sur 8 km, 3 mètres cubes de déchets ramassés, uniquement sur cette portion-là, principalement des canettes de bière, paquets de cigarettes, des sacs d'emballage, la soude. Après, bon, il y a des pneus, des matelas, machines à laver, plastique, des bâches. Ils jettent par la fenêtre et après, il y a une incivilité de certains. Une machine à laver ou des pneus, on ne les jette pas par la fenêtre. Donc, c'est des gens qui viennent les déposer au bord des routes. On a à peu près 4 déchetteries quoi, sur un secteur à peu près de 40 km. Et après, il y a les conteneurs dans toutes les agglos. À chaque intersection, il y a presque un conteneur poubelle. Donc, c'est que vraiment, les gens font esprit de jeter au bord des routes. C'est quand même problématique pour une région comme la nôtre. Quoi. On va dire que sur l'ensemble de mon secteur, ça sera pas loin de 20 mètres cubes, quoi, je pense. Les Cévennes, c'est une belle région qui attire du monde. Et c'est vrai que c'est désolant de voir nos bords des routes dans cet état. Quoi.
À propos des écologistes engagés pour les européennes, la place de numéro 2 de Pascal Canfin sur la liste La République En Marche suscite des commentaires.
Le directeur général de WWF, qui a démissionné avant-hier, s'est expliqué ce matin. Il a devancé des questions sur l'engagement du gouvernement en matière d'environnement.
Si vous voulez que je vous dise que le gouvernement actuel français n'en fait pas assez, ne va pas assez vite, ne va pas assez loin sur l'écologie, c'est même pas la peine que vous me posiez la question, je vous le dis.
Et ben voilà, c'est dit, l'écologiste Pascal Canfin, numéro 2 de la liste pour les européennes, derrière Nathalie Loiseau sur France Inter ce matin.
13h07 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est la Lune avec Donald Trump qui veut accélérer le mouvement pour envoyer des astronautes américains sur la Lune. Et c'est un anniversaire, ça c'est pour la Tour Eiffel. Mais avant, on va prendre des chemins d'avenir. Cette association lancée par Salomé Berlioux que nous avons reçue il y a quelques semaines dans ce rendez-vous de la mi-journée pour son livre Les Invisibles de la République.
Géraldine Oudéyer est allée vérifier comment on peut aider des jeunes ruraux à accéder, comme les citadins, à des grandes écoles avec un système de parrains et marraines. Vous avez rencontré, Géraldine, une étudiante originaire de l'Allier qui étudie à Laval et sa marraine.
Oui, aujourd'hui, Angèle est comme un poisson dans l'eau à l'Estaca de Laval.
Ici, on est dans le hall de l'école. En bas, on a les salles de TP. Là, c'est les différentes fusées.
L'école forme les futurs ingénieurs des transports et de l'aéronautique. Mais sans sa marraine, l'étudiante de 19 ans n'aurait jamais imaginé intégrer la prépa de l'école.
J'avais envie de faire des grandes études, mais je me posais beaucoup de questions. Je ne me disais pas, une école privée, tiens, ça a l'air chouette. Pour moi, les privés, c'était réservé aux gens... plutôt aisé, qui avait de l'argent. Mais finalement, j'ai su que c'était ce que je voulais faire.
Des freins financiers donc, mais pas seulement.
Je pense que c'est de l'autocensure tout simplement. Le fait d'être dans une petite ville, on se sent un peu inférieur. On a moins confiance en soi. On a peur de pas réussir ou on a peur de pas pouvoir s'intégrer à cette école parce que les gens vont venir de grandes villes, de Paris, de Toulouse. Et nous, on va venir d'un petit village que personne ne connaît.
Laurence, la marraine d'Angèle, travaille dans la finance aéronautique à Paris. Elle l'a aidé à trouver sa voie et son école. L'effet miroir a beaucoup joué dans son engagement.
J'ai été élevée à la campagne, dans un petit village de l'Eure-et-Loire, de 150 habitants. Je pense que c'est plus compliqué quand on est à la campagne parce qu'on a moins d'exemples autour de soi. Moi, je suis issue d'une famille d'agriculteurs. J'avais envie de travailler dans le cinéma, de faire de la production ou de la mise en scène et je connaissais absolument personne dans ces métiers-là. J'avais envie de faire soit du cinéma, soit de travailler dans la banque. J'ai pu faire un stage en troisième dans une banque alors que, bon, à Chartres, je pouvais pas aller faire un stage dans une maison de cinéma. Mais j'ai l'impression que les choix étaient plus restreints en vivant à la campagne.
Aujourd'hui, Angèle ne se pose plus aucune limite.
J'aimerais partir dans le domaine spatial, travailler dans les fusées, la conception de fusées, les projets sur Mars. Il faut être le plus ambitieux possible maintenant.
L'association Chemin d'Avenir recrute des parrains et des filleuls partout en France.
Géraldine Oudéyer avec une jeune et sa marraine avec Chemin d'Avenir qui met en contact les jeunes avec des parrains-marraines pour les aider à trouver leur voie.
Il était question de la planète Mars avec la jeune fille de l'Allier à l'instant. Voici la Lune avec la demande faite par Donald Trump à la NASA.
Accélérer le mouvement pour retourner sur la Lune. Trump se dit agacé par la lenteur et l'inertie bureaucratique de la NASA. 2028 lui paraît trop loin. Il veut miser sur 2024, Pauline Pénanec.
Oui, ce coup de fouet envoyé par l'administration Trump. Elle confirme qu'une femme devrait être la prochaine à poser un pied sur la Lune. Objectif programmé pour 2024, alors que la NASA l'avait prévu 4 ans plus tard. Rappelons qu'aucun humain n'y est retourné depuis 1972. Donald Trump, agacé, veut aller plus vite. Il veut marquer l'histoire. Mais il se sent déjà dépassé par la Chine, qui a réussi à faire atterrir un robot sur la face cachée de la Lune. Alors aujourd'hui, l'administration Trump menace même de confier les futures missions aux lanceurs privés si la NASA n'est pas prête à temps. Elle ne parle pas de SpaceX, mais l'allusion est très claire. Réponse du patron de la NASA, message parfaitement reçu. Objectif Lune donc pour Donald Trump, avec en ligne de mire une mission sur Mars.
Pauline Pénanec, spécialiste de l'espace, non ?
Oui, parce qu'elle a parlé hier de la combinaison de l'astronaute qui n'a pas pu sortir de la station internationale. Là, c'était la Lune en 2024, peut-être avant Mars, peut-être aussi.
Deux équipes françaises jouent les quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir, Lyon et le PSG au féminin.
Lyon joue en Allemagne à Wolfsburg à 18h15. Les Lyonnaises l'avaient emporté 2-1 au match aller. Lyon a un peu la pression quand on entend l'entraîneur Reynald Pedros.
On a quand même le chic, nous, c'est de se mettre des pressions négatives. Tu joues une des meilleures équipes d'Europe, tu peux mener 3-0 à la mi-temps, tu prends ce but malheureux sur un coup de pied arrêté et tu gagnes 2-1. Et on te dit, pas terrible quand même, c'est un peu ça. J'ai l'impression aussi que si on gagne pas 4-0, bah on fait pas un bon match, quoi. C'est ça qui est embêtant.
Eh bien, il a de l'humour, Pedros, l'ex-Nantais, entraîneur des filles à Lyon. Paris reçoit Chelsea ce soir après une défaite 2-0 au match aller.
Les 130 ans de l'anniversaire de la Tour Eiffel, c'est dimanche. Elle a été inaugurée le 31 mars 1889, après 2 ans, 2 mois et 5 jours de travaux.
Vous avez compté. On rencontre souvent des touristes qui viennent la voir du monde entier, moins souvent ceux qui y travaillent. Voici l'un des plus anciens agents d'accueil de la Tour Eiffel. 18 ans qu'il est là, Adrien Bossard.
Des piliers pour le contrôle des tickets.
Ticket for people, thank you.
Aux ascenseurs pour réguler les flux.
Pour aller au deuxième étage ou au sommet, restez parmi nous s'il vous plaît.
Jusqu'aux étages pour l'orientation du public. La Tour Eiffel n'a plus de secret pour Karim. Ce polyglotte y travaille depuis maintenant 18 ans. Il commence comme saisonnier, séduit d'abord par l'environnement de travail.
Ça c'est notre écran, ça si vous voulez. C'est notre 17 pouces. Entre deux annonces, vous êtes seul et vous regardez des horizons. Il y a peu de lieux de travail, vous avez des horizons comme ça.
Séduit aussi par le contact humain.
J'ai été fasciné par la foule et je me suis dit, c'est ici que je voudrais être.
Cet engouement des touristes pour la Tour Eiffel, il s'en fait aussi le garant.
Je n'ai pas l'impression que ce monument nous appartient, mais qu'on est simplement des ouvreurs de portes sur un patrimoine qui a une dimension symbolique extrêmement forte pour la France. Il est très important de pouvoir partager à minima, par le sourire, une information historique, aider tout simplement les gens à continuer leur voyage.
Parmi ces rencontres marquantes, la visite privée pour la femme du président chinois il y a 2 ans, ou celle de Donald Trump, des moments rares dans un quotidien devenu moins emballant. Le touriste de 2019 n'est plus le même qu'il y a 20 ans.
On a l'impression que les touristes sont plus pressés maintenant. Il faut venir ici et puis vite en repartir.
À tel point que Karim songe sérieusement à prendre du galon, faire de l'administratif.
Karim, qui parle chinois avec Adrien Bossard à la Tour Eiffel. Vous savez, Frédéric, qu'on la compare parfois à une girafe avec son long cou.
Non, je savais pas.
La Tour Eiffel ?
Non, non.
Eh bien, écoutez, chanson plus, bifleurée.
Eh oui, je suis une girafe, m'a raconté la Tour Eiffel. Et si ma tête est dans le ciel, c'est pour mieux brouter, brouter, brouter les nuages, brouter les nuages. Car il me rend éternel, mais j'ai 4 pieds bien assis. Dans une courbe de la Seine, on ne s'ennuie pas à Paris. Les femmes comme des phalènes, les hommes comme des fourmis glissent sans fin entre mes jambes. Et les plus fous, les plus ingambes montent et descendent le long de mon cou comme des frelons.
On a fait des recherches ce matin. Des écoliers ont chanté la Tour Eiffel du poète Maurice Carême, mis en musique donc par chanson plus bifluorée.
Allez, après les souvenirs d'école, des souvenirs des années 50 avec une pin-up qui arrive.
Avec aussi une naissance de poulains jumeaux et la visite d'un arboretum.
On va passer par Lyon, Troyes et par Versailles aussi.
Oui, mais alors après la météo.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.